Et le était signé Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à tous et à toutes. Le risque de paralysie à partir de minuit dans certaines administrations fédérales états-uniennes apparaît de nouveau très élevé. Démocrates et républicains négocient au Sénat autour de la loi autorisant la rallonge nécessaire pour assurer notamment la continuité des salaires des fonctionnaires d'État d'ici minuit, heure locale. Mais il n'est pas du tout sûr qu'un accord puisse être trouvé. Grégory Phillips nous attend en direct de Washington. Comment prouver l'utilisation d'armes chimiques en Syrie? Antonio Guterres veut tenter de relancer les procédures pour établir enfin clairement les responsabilités. Le secrétaire général de l'ONU veut contourner le veto russe alors que les preuves en images des attaques chimiques sont menacées de disparition. Explication de Marie-Pierre Véraud. En France, Nicole Belloubet confrontée à l'ambiance explosive dans les prisons. En visite à Bastia, la ministre de la Justice s'est rendue au chevet des deux surveillants pénitentiaires agressés ce matin par un détenu en voie de radicalisation. Point de situation avec Xavier Demani. Emmanuel Macron lui reçoit Angela Merkel à l'Elysée. En ce moment même, les deux dirigeants parlent de l'avenir de l'Europe. Évidemment très lié à leur avenir politique à tous les deux. Explication, suivi et analyse de Ludovic Piétenu. Aux États-Unis, l'incertitude règne en ce vendredi sur le fonctionnement à venir dans les jours prochains au moins des administrations fédérales. Elles pourraient avoir à s'arrêter partiellement à partir de minuit, heure locale, en raison d'un possible shutdown. Certains fonctionnaires fédéraux pourraient ne plus être payés, les budgets pourraient être bloqués si le Sénat des États-Unis ne décide pas d'accorder la rallonge nécessaire au bouclage du budget. Il faut pour cela une proposition de loi, elle doit être votée. Un shutdown dans ces conditions ne s'est pas produit depuis 2013 et pourrait, s'il advenait ce soir, marquer négativement le premier anniversaire de l'entrée en fonction de Donald Trump ce samedi. Sur place à Washington et en direct, nous retrouvons notre envoyé spécial permanent, Grégory Phillips. Bonjour Grégory.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
Toujours pas d'accord en vue au Sénat, il reste un peu plus de 10 heures à la Chambre haute pour trouver un accord. Est-ce qu'on va vers le shutdown, Grégory?
Alors oui, sans doute, car la Maison-Blanche a tenu il y a une demi-heure environ un point presse pour dire qu'il fallait s'y préparer. Et puis le compte à rebours s'affiche désormais en bas à droite des écrans de télévision. Si à minuit ce soir, vous l'avez dit, le Sénat n'a pas trouvé d'accord, alors quelques 800 000 fonctionnaires fédéraux vont tout simplement se retrouver au chômage technique. Les parcs nationaux et les musées vont fermer. La plupart des administrations vont tourner au ralenti. À Washington DC, qui dépend directement du Congrès, eh bien les poubelles ne seront plus ramassées. Seuls les services fédéraux jugés essentiels à la vie du pays seront maintenus. Tout ce qui concerne par exemple les opérations militaires, l'aviation ou la poste. Le dernier shutdown en 2013 avait duré 16 jours, durant lesquels les fonctionnaires gouvernementaux n'avaient pas été payés. Cette situation s'est produite 21 fois depuis le début des années 80 et si elle se déroule à nouveau ce soir, eh bien, ce sera la faute des démocrates, a dit tout à l'heure le porte-parole de la Maison-Blanche.
Et oui, parce qu'à l'origine de ce problème, comme toujours, hein, une question de politique intérieure et un marchandage politique entre républicains et démocrates, cette fois c'est sur le sujet de l'immigration.
Oui, marchandage, le mot est bien choisi, car les démocrates ont bien fait comprendre qu'ils ne voteraient pas cette rallonge budgétaire si les 700 000 jeunes Dreamers, vous savez, ces sans-papiers arrivés aux États-Unis avec leurs parents, ne sont pas régularisés. Mais même au sein du Parti républicain, il faut préciser qu'il y a des divisions sur les priorités budgétaires. Il faut trouver 60 sénateurs d'ici minuit qui voteront ce budget. Sinon, à minuit, il y aura shutdown, au moins pour ce week-end. Alors, faut bien dire que sur un week-end, les conséquences seront évidemment limitées, mais on verra lundi quelles seront les conséquences réelles. Donald Trump, lui, suit tout cela depuis la Maison-Blanche et il a décalé pour l'instant de quelques heures son départ à Mar-a-Lago en Floride où demain soir il a prévu de fêter le premier anniversaire de son accession au pouvoir. Mais pour l'instant, le président reste à Washington.
Merci Grégory Phillips en direct pour France Culture de Washington. Washington où a lieu en ce moment même une manifestation pro-life d'opposants au droit à l'avortement. C'est la marche pour la vie avec des manifestants qui doivent, dans le courant de l'après-midi, recevoir les encouragements bienveillants de Donald Trump en personne par le biais d'une vidéo. En Syrie, quelles preuves et quels documents probants pour établir l'utilisation par le régime de Bachar el-Assad d'armes chimiques? La question revient en boucle depuis le début de la guerre il y a 7 ans et c'est le cas ces jours-ci, notamment depuis que le secrétaire général de l'ONU a relancé les efforts du Conseil de sécurité pour tenter de punir les responsables. Antonio Guterres veut notamment contourner le veto que la Russie a opposé par deux fois pour protéger son allié syrien. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Du service diplomatique de la rédaction de France Culture. Le problème dans ce dossier, c'est celui de l'établissement de la preuve, ce qui pose la question, Marie-Pierre, des images dont on dispose en dehors des frontières syriennes. Des images qui, si rien n'est fait, pourraient bien disparaître.
Oui, puisque les preuves sur le terrain sont effacées par les auteurs des crimes. Les images et témoignages filmés sont cruciaux. Et c'est une véritable course contre la montre qui est engagée pour sauver ces preuves qui disparaissent. Donc, la politique de modération des contenus violents et extrémistes sur les réseaux sociaux, politique qu'ont demandé plusieurs dirigeants en Grande-Bretagne, à l'Allemagne et ici en France, pour des raisons bien compréhensibles, notamment dans la lutte contre la radicalisation, eh bien cette politique a pour conséquence l'effacement de dizaines de milliers de vidéos qui parfois sont les seules traces des exactions commises sur le terrain. C'est un paradoxe, explique la juge française Catherine Marquiuel, chargée d'enquêter pour l'ONU sur les crimes de guerre commis en Syrie. Ce conflit est sans doute l'un des plus documentés, mais en même temps, les précieux témoignages risquent de disparaître très vite. Les algorithmes de Google effaçant les vidéos d'atrocités, coupant les canaux qui les diffusent. YouTube est particulièrement concerné. C'est le canal qu'ont privilégié les activistes syriens pour dénoncer les exactions, pour alerter la communauté internationale sur les crimes de guerre et archiver leurs documents. La juge française qui enquête donc pour l'ONU a d'ailleurs, dès sa nomination, pris son bâton de pèlerin pour sensibiliser les géants du net. La communauté internationale, vous le disiez, se remet donc en mouvement. Outre l'appel d'Antonio Guterres, appuyé par l'ambassadrice américaine à l'ONU, la France invite mardi prochain une trentaine de pays souhaitant, je cite, coopérer efficacement contre l'impunité des auteurs d'attaques chimiques. Là aussi, il s'agit donc de coopérer pour conserver les preuves d'attaques, identifier les responsables et leur imposer des sanctions. L'enjeu est d'importance, rappelle le secrétaire général de l'ONU, parce que si l'on ne peut punir les auteurs d'attaques chimiques en Syrie, eh bien, cela remet sérieusement en cause le tabou planétaire sur leur utilisation.
Merci Marie-Pierre Véro. En République tchèque, l'ancien Premier ministre Andrej Babiš, démissionnaire, a perdu aujourd'hui son immunité parlementaire. 3 jours seulement après avoir échoué à former un gouvernement minoritaire après les élections du mois d'octobre, Andrej Babiš pourra donc être jugé pour des faits de corruption. Il est accusé d'avoir profité de fonds européens de manière frauduleuse. En France, Nicole Belloubet est arrivée à Bastia dans l'après-midi. Elle y a rencontré à l'hôpital les 2 surveillants agressés ce matin dans la prison de Borgo par un détenu suivi pour radicalisation. L'un de ces surveillants souffre de blessures sérieuses, mais sa vie n'est pas en danger. Pour la ministre de la Justice, cette rencontre a été, je cite, émouvante et très choquante. Bonjour Xavier Domagny.
Bonjour.
La garde des Sceaux s'est ensuite rendue au centre pénitentiaire de Borgo pour rencontrer les syndicats. Passage incontournable dans le contexte que connaissent actuellement les prisons françaises et en pleine négociation évidemment avec les syndicats de surveillants.
Oui, contrairement à l'agression de Vendin-le-Vieil, Nicole Belloubet n'a cette fois pas attendu bien longtemps pour se rendre sur place. Elle doit d'ailleurs s'exprimer dans les prochaines heures depuis la Corse. Un mot sur cette affaire de Borgo. Le détenu en question a été interpellé ainsi que 3 autres soupçonnés de complicité. Il était armé d'un couteau, disons, artisanal. Il s'en est pris aux surveillants dans la salle commune de la prison. Cet homme purge une peine de 5 ans pour homicide involontaire. Il venait d'apprendre qu'il allait être placé à l'isolement. Il est suivi pour radicalisation. Cette nouvelle attaque vient en tout cas rajouter de l'huile sur le feu. Depuis lundi, les syndicats de surveillants manifestent leur colère, tentent de mettre la pression sur les négociations en cours avec l'administration pénitentiaire. Négociations qui ont repris ce matin à 9h. Il s'agit d'obtenir plus de sécurité, plus de recrutement et la gestion de détenus radicalisés. L'administration pénitentiaire espère trouver une issue rapide à ce conflit, mais c'est sans compter donc la détermination des syndicats à obtenir satisfaction. Ils appellent d'ailleurs toujours à de nouveaux blocages lundi matin.
Ouais, pour l'instant, ce conflit dure. Quelles conséquences il a sur la vie carcérale, Xavier ?
Eh bien, ce sont des parloirs, des coups de fil annulés avec les familles, les avocats, des transferts, des audiences reportées et moins de promenades aussi. On parlait de pression. Tout ça peut créer de l'énervement, des tensions à l'intérieur des établissements. Hier, par exemple, des détenus de Fleury-Mérogis en Essonne ont refusé pendant un moment de regagner leur cellule. Quant aux agressions, y en a-t-il plus que d'habitude ? Bah, pas vraiment. Je vous rappelle qu'il y en a eu 4000 l'an dernier dans les prisons françaises, en moyenne 10 par jour. Ça n'enlève rien à la gravité de celle de ce matin, mais simplement, les syndicats n'hésitent pas ces jours-ci à les médiatiser, ces agressions, au service de leur mobilisation.
Merci Xavier Domagny. Emmanuel Macron reçoit en ce moment même à l'Elysée Angela Merkel avec le futur de l'Europe pour sujet de discussion. Le président de la République française, très engagé sur la question, reçoit celle qui n'est pas encore renouvelée officiellement à son poste de chancelière d'Allemagne, mais qui tente justement d'amadouer ses partenaires du SPD avec avec qui elle a passé un accord, en particulier un accord qui porte beaucoup sur les questions européennes. Bonjour Ludovic Piétonnu.
Bonjour.
Cette rencontre à l'Élysée en ce moment est organisée pour qu'à la fin, entre Merkel et Macron, on sorte gagnant-gagnant.
Oui, c'est une convergence d'intérêts très forte en effet entre l'un et l'autre. Ce n'est pas pour rien si l'on renomme le duo Macron-Merkel Macron, comme s'il ne faisait qu'un. Pour parvenir à une convergence franco-allemande sur plusieurs sujets, le président français ne peut pas être tout seul. Lui qui aspire à des résultats a besoin que les discussions pour former un gouvernement en Allemagne s'achèvent et s'achèvent rapidement. Pour cela, il faut qu'outre Rhin, les 600 délégués du Parti Social-Démocrate votent ce dimanche favorablement. Et ça, ça n'est pas gagné tant le SPD pourrait signer son arrêt de mort politique en participant à la coalition avec les conservateurs. Un vote négatif renverrait les Allemands aux urnes, il retarderait conséquemment le calendrier et doucherait même les espoirs du président français et Angela Merkel, elle, serait politiquement au bord du précipice. En s'affichant ce soir à Paris aux côtés du jeune président dont l'image rassure en Allemagne, elle offre à l'opinion publique allemande ce chemin justement rassurant. Macron vient de parler à l'instant d'ambition véritable pour le projet européen, dessiné selon lui dans les discussions exploratoires entre la chancelière et ses possibles futurs partenaires sociaux-démocrates. Il a parlé d'imaginaire en commun, vanté comme à chaque fois le couple franco-allemand. À 3 jours de la célébration en grande pompe à Paris comme à Berlin, des 55 ans du traité de l'Elysée signé entre De Gaulle et le chancelier Adenauer. Un anniversaire qui pourrait avoir une bien drôle d'allure, Benoît, si les camarades, si la gauche allemande préférait dimanche rester dans l'opposition.
Ludovic Piétonnu. Plus tôt dans la journée, le président de la République était à Toulon pour présenter ses vœux aux armées. L'objectif pour le chef de l'État était de rassurer les militaires, notamment en matière budgétaire, tout en responsabilisant sur l'utilisation des moyens alloués. Excellente illustration du « en même tempisme » en matière de défense. Reportage en rade de Toulon, Nathalie Hernandez.
Aux armées, la nation reconnaissante, a rappelé le président de la République avec solennité. D'où la nécessité de mettre les moyens. Emmanuel Macron réitère son engagement de hausse budgétaire, inédite après des années de contraintes. Mais attention, chaque dépense sera évaluée à la loupe.
J'assume devant la nation mes choix de vous donner ces budgets. Mais vous ne devez pas ignorer qu'ils traduiront une réduction des ressources accordées à d'autres politiques publiques. Je vous donne donc des moyens. Mais en même temps, ce sera pour vous plus de responsabilités.
La dissuasion nucléaire, les équipements blindés et patrouilleurs en particulier seront renouvelés, les moyens du renseignement seront renforcés. J'écoute ce qu'on me dit, a déclaré le président de la République, qui a également fait des entraînements. Une priorité reste l'état d'esprit, semble-t-il apaisé 6 mois après le départ du général de Villiers. N'ayez pas peur, le logiciel de la méfiance appartient au passé, assure Emmanuel Macron, place désormais à la confiance.
Les principes fondateurs de l'hébergement d'urgence ne sont pas respectés par la circulaire Collomb du 12 décembre. Extrait du communiqué qu'a fait paraître ce matin le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui demande au gouvernement le retrait pur et simple de cette circulaire organisant un recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Benoît.
Il y a dans ce texte, explique Jacques Toubon, un risque d'atteinte aux libertés et à la dignité des plus démunis.
Oui, une attaque en règle de la circulaire justifiée en 3 points. Tout d'abord, Jacques Toubon donne raison au principal argument des associations qui dénoncent le texte depuis décembre, confirmant qu'il est contraire au principe de l'accueil inconditionnel dans les centres d'hébergement d'urgence. Il rappelle que ces centres doivent pouvoir proposer un toit à tous ceux qui sont en situation de détresse sans que l'on ait à regarder ni leur nationalité, ni la régularité ou non de leur séjour en France. Deuxième argument et deuxième rappel, les centres d'hébergement relèvent du cadre de l'action sociale où ne peut s'appliquer légalement un contrôle administratif de la situation des bénéficiaires. Là encore, c'est reconnaître le caractère sanctuarisé des centres foulés aux pieds par la circulaire Collomb. Enfin, aller vérifier le statut administratif des étrangers accueillis. Cela suppose que les gérants de ces centres transmettent aux autorités des données personnelles sensibles. Et c'est contraire, nous dit le défenseur des droits, aux règles de confidentialité fixées par la CNIL.
Un défenseur des droits qui a un pouvoir, cela dit Camille, très relatif.
Oui, très symbolique en tout cas, c'est vrai, pas du tout coercitif. Le défenseur des droits peut faire une recommandation, comme dans ce cas-là, demander le retrait de la circulaire Collomb. Il attend ensuite une réponse de l'administration concernée, en l'occurrence le gouvernement. Si cette réponse ne vient pas, il va rédiger une injonction. Et si celle-ci est à nouveau ignorée, eh bien il établira un rapport spécial et ça s'arrêtera là. Mais conscient des limites de son influence, Jacques Toubon a glissé dans sa décision d'aujourd'hui des pistes pour une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle, par contre, a le pouvoir de faire condamner l'État français.
Développer l'apprentissage massivement, c'est une des ambitions affichées par le gouvernement qui explore toutes les pistes pour arriver à cette fin, notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle l'Erasmus des apprentis, ces jeunes qui partent à l'étranger ou qui en arrivent. Muriel Pénicaud s'est engagée à en doubler le nombre. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
Alors que la réforme de l'apprentissage est en cours de négociation et fera l'objet d'une loi au printemps, la ministre du Travail entend suivre une grande partie des conclusions du rapport du député européen Jean Arthuis qu'il lui a remis ce matin.
Oui, car si globalement le programme Erasmus marche bien, les apprentis restent eux très peu nombreux à en bénéficier. Rien que l'an dernier, 43 000 étudiants ont pu se rendre dans un autre pays européen grâce à une bourse Erasmus, mais seulement 6 800 jeunes ont fait une pause dans leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour faire de même. Il faut dire que les freins sont nombreux et parmi les principaux enjeux identifiés au niveau national, il y a les réticences des employeurs à laisser leurs apprentis s'absenter de leur emploi, si bien qu'actuellement ceux qui partent à l'étranger ne le font que pour 2 ou 3 semaines. D'où l'idée de permettre aux employeurs de suspendre leurs responsabilités, tout comme le paiement des rémunérations et des cotisations sociales de leurs apprentis, à partir du moment où ceux-ci sont en mobilité. En pratique, cela passerait par une modification du Code du travail. Pour les apprentis, le rapport propose des moyens de leur assurer une couverture sociale, autre préconisation, créer une garantie de ressources financières et améliorer les équivalences de diplômes pratiquement inexistantes pour les apprentis. L'autre moitié des mesures proposées relève-t-elle du niveau européen, comme faire des jumelages entre centres de formation ou multiplier les crédits européens pour Erasmus. Muriel Pénicaud a aussi dit souhaiter qu'il en soit question au prochain Conseil européen des ministres.
Merci. 18h16 sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête du service investigation de Radio France sur les méthodes très discutables de la justice américaine en matière commerciale. Bonjour Benoît Colomba.
Bonjour.
Vous avez enquêté sur l'affaire Alstom et sur l'amende dont avait écopé l'entreprise française. Elle a été condamnée à une amende de 772 millions de dollars en 2014 par la justice américaine dans une affaire de corruption. Et vous avez découvert, Benoît, que derrière cette affaire, il y a une véritable stratégie américaine.
Oui, parce que dans la foulée, la branche énergie d'Alstom est rachetée par l'américain General Electric au nez et à la barbe de l'État français. Écoutez le témoignage de Pierre Laporte. Il a travaillé dans une branche d'Alstom comme directeur juridique. Il raconte les méthodes de la justice américaine.
Les procureurs du département de la justice américaine expliquent que face à des comportements qui sont de même nature que ceux de la mafia, ils utilisent les mêmes méthodes. Et donc ce sont des méthodes agressives qui sont finalement assez violentes. Alstom a été averti plusieurs fois. Et après, on attrape l'un des membres pour terroriser les autres.
On attrape l'un des membres pour terroriser les autres, c'est-à-dire ?
Eh bien, dans cette affaire, les Américains se sont d'abord intéressés à des pots de vin versés par Alstom en Indonésie. Alors, ils mettent la pression sur l'entreprise. L'un de ses cadres est arrêté aux États-Unis. Et du coup, Alstom accepte finalement de plaider coupable et elle conclut un accord avec la justice américaine, le DOJ, le département de la justice américaine.
Et il y aurait un lien donc entre cette affaire de corruption et la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric ?
Alors, officiellement, non. Mais selon le journaliste Jean-Michel Quatre Point qui a enquêté sur cette affaire, le lien est évident.
La preuve que ça avait bien une incidente, c'est que tous les dirigeants d'Alstom ne pouvaient plus aller aux États-Unis, ni dans un certain nombre de pays où ils risquaient d'être extradés par les demandes américaines. Et comme par hasard, Patrick Cron, son directeur juridique, etc., ont pu aller 2 fois aux États-Unis pour négocier le détail de la vente pour l'énergie.
Oui, Patrick Cron, le PDG à l'époque d'Alstom. Alors, ce rachat pose de vraies questions d'indépendance, car Alstom, c'est notamment une entreprise stratégique dans la filière nucléaire qui fournit des turbines pour les sous-marins ou les centrales nucléaires.
Et Alstom n'est pas un cas isolé. D'après votre enquête, Benoît Colomba, on peut parler d'un véritable système ?
Oui, de nombreuses entreprises françaises ont été poursuivies par la justice américaine dans le cadre d'affaires de corruption ou de contournement d'embargo décidés par les États-Unis. On se souvient par exemple de BNP Paribas, condamné à une amende de 9 milliards de dollars. Les lois américaines permettent de poursuivre ces entreprises à l'étranger. Il suffit qu'elles utilisent le dollar pour se retrouver dans le collimateur des États-Unis. Et ça va même encore un peu plus loin, explique l'économiste Hervé Juvin.
Il y a un critère de rattachement qui est encore plus subtil. c'est le fait que vous ayez utilisé dans votre téléphone portable, dans votre ordinateur, vous ayez utilisé une puce fabriquée aux États-Unis, vous ayez utilisé un hébergeur ou un serveur américain. Si par hasard vous utilisez Internet, eh bien vous tombez sous le coup de la loi américaine et vous pouvez être poursuivi.
Donc au nom de ce principe, les Américains peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, poursuivre n'importe qui. Pour quelle raison ?
Eh bien, ça leur permet d'écarter des concurrents hein, et de garder l'avantage finalement dans la bataille économique, estime l'ancien député LR Pierre Lellouche. En 2016, il a présidé une mission d'information parlementaire sur le sujet.
C'est une stratégie délibérée des États-Unis de mettre en réseau l'ensemble de leurs agences. La NSA qui fait les interceptions, la CIA, le FBI, le ministère de la Justice et un certain nombre de procureurs, y compris à New York, pour mener une véritable guerre économique à leurs concurrents.
Et ces dernières années, plus de 20 milliards de dollars d'amendes ont été infligés par la justice américaine à des entreprises européennes, avec l'obligation pour ces entreprises de se mettre en conformité avec les standards de la réglementation américaine.
Merci Benoît Colombat du service investigation de Radio France. Votre enquête est à retrouver en longueur sur notre site internet franceculture.fr. Une nouvelle perturbation arrive demain. Elle provoquera des pluies soutenues sur tout le sud-ouest et des chutes de neige sur les reliefs du Massif central, sur les Alpes et sur les frontières belges et allemandes. Le matin, les températures minimales varieront de 0 à 2 degrés dans le nord-est. Les maximales attendues sur le sud, 14 degrés.